C'était Rockanis d'Odelgic, serré par Stereoskin. Non, c'était Stereoskin par Rockanis d'Odelgic.
D'Odelgic.
D'Odelgic. Voilà.
C'est un peu mieux.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 6 août 2011. Nos programmes pour cet après-midi, du sport à 13h, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jan O'Dead et à 17h FMR, celle d'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le soleil que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
Avis à tous ceux qui choperaient en route le train pour Poudlard avec ce dernier numéro, vous n'y pomperez rien. Mais voici donc spécial dédicace.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geek, avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Alors en fait, tu vois, ça, c'est ce que l'on appelle l'airplay, et la différence donc avec la playlist, c'est que l'airplay, c'est ce que t'as réellement diffusé, là, quand c'est en cours de diffusion. Pardon, excusez-moi, on est à l'antenne. Bonjour à tous, bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour Ultimatum.
Bonjour Dastrich.
Toujours aussi bonne speakline.
Ah oui, non mais c'est bien de fourcher sur de l'islandais, je sais pas ce que vous avez.
Oui, c'est de l'islandais à mon avis, ça c'est. Avec autant de cas.
Tant qu'on parle pas du volcan, ça va.
Ou qu'on ne parle pas des terroristes islamistes qui en fait se cachent en blond dès l'extrême droite et francs-maçons.
Ah oui.
Et qui fait.
C'est pas l'Islande, ça. C'est...
Mais le danger, c'est uniquement à cause d'Internet et des jeux vidéo. Alors que c'était qu'un prétexte enfin, dans l'affaire.
Bref.
Pourtant, il avait une ferme bio et il commandait de l'engrais chimique et ça, personne n'a tilté.
Quoi, c'est un Norvégien, ça.
C'est un Norvégien, oui, toujours enfin bon. Ça reste toujours des anarchistes hein, au nord. Pardon, excusez-moi. Bonjour et bienvenue. Donc, merci d'être là parmi nous cette semaine, alors que nous sommes vaillants au poste et qu'on va faire un break. On vous explique, on va faire un break d'une manière technique. On a posé des vacances un petit peu, entre guillemets, forcées, pour une raison complètement stupide, qui est qu'on est à l'émission numéro 285. Or, si on faisait toutes les émissions, tous les samedis, jusqu'au bout, on arriverait à la date du 19 novembre, c'est-à-dire qu'on serait à Colomiers pour la 300e. La semaine suivante, c'est le TGS.
Ouais, ça
c'est un petit peu c'est un petit peu dommage du coup, parce que quand même on pourrait faire une 300e qui soit vraiment fun, qui soit vraiment éclatante, avec plein de guest stars, avec des mecs, enfin avec quelque chose de vraiment à part, en plus et spécial qu'on va faire quand même pour, puisque c'est la rentrée, ça va être les 30 ans de la radio, donc on est censé faire plein de trucs, et en fait bon, on fera beaucoup moins finalement de direct en extérieur que prévu, faute de temps, d'un petit peu partout. Pour le coup, ben on va prendre 2-3 semaines de pause. En même temps, on va nous repeindre le studio, on va nous rééquilibrer tout le matos. Parce qu'à chaque fois, c'est la grande guerre pour les techniciens, pour vous dire, pour que le son passe absolument en podcast, il faut que le son soit impérativement à en dessous de moins 7 dB. Donc c'est très chiant à gérer sur la table, sur la régie. C'est ingérable, tout est à refaire, point de vue réglage et tout ça. On va prendre des pros hein, cette fois-ci. Humour. On va même revoir un petit peu le système de bande-annonce et tout le reste pour que ça marche un petit peu mieux. Ceci dit, puisque on a des voix à couilles dans le studio et sévèrement mieux burnées que la mienne, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Nostalgie de Dieu de Marc Dubuisson. C'était un bouquin qui était sorti chez Diantre et qu'on avait chroniqué en juin 2009, donc il y a 2 ans, c'était un bouquin qui était en noir et blanc, où en fait c'était des cases en gaufrier, et on avait toujours le même dessin qui se répétait, un peu comme c'était Il y avait Lewis Trondheim qui avait fait cette expérience dans Louvoir potentiel la bande dessinée Loubapo.
Il y avait Lynch qui s'était frotté à cet exercice de style aussi.
Et la nostalgie de Dieu, donc c'était en plus un professeur d'infographie qui du coup avait vraiment fait un truc archi basique en copier-coller, mais tout se passait dans les dialogues, et les dialogues étaient à pleurer de rire puisque c'était un suicidaire qui va pour se suicider et qui dit bon Dieu, adieu quoi, et là Dieu qui fait tu m'emmerdes. Et la suite de l'album était à pleurer de rire, c'était super bien écrit, c'était assez génial.
Tu me l'avais même prêté, alors il avait dormi sur mon étagère pendant longtemps, et je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est les mêmes, toujours les mêmes cases, j'ai pas envie, et puis finalement j'ai lu la première, je me suis dit tiens c'est surprenant, la deuxième, la troisième, et finalement ça se lit d'une traite et ça se dévore.
Ça se dévore, ça marche très bien, à tel point que il y a une compagnie théâtrale qui s'appelle Not Me Thunder qui a dit ben on va le faire en pièce de théâtre. On va faire une mise en scène. Donc ça se passe à la Comédie Contrescapes, c'est dans le 5e arrondissement de Paris, pas de Toulouse, je précise. C'est du 3 août jusqu'au 15 septembre, c'est du mardi au dimanche. À 22 euros, il me semble, pour les entrées, sachant que donc il y a une offre promotionnelle en ce moment, c'est à côté de la place Monge, hein. Si vous cherchez, si vous êtes de passage à Paris, ça peut être l'occasion. Et on va vous faire écouter un extrait, comme quoi, ben, c'est plutôt réussi et ça marche plutôt bien, la preuve, donc, voyez ce que ça donne.
Vous êtes pour l'homosexualité?
C'est juste de t'aider, moi.
Mais enfin, le Vatican ne cesse de répéter que c'est le pire des péchés.
Oh, me dis pas que pour toi, tous les prêtres sont chastes et hétéros.
Bah.
Oh. Bon, écoute, croire en moi passe encore. Mais là, c'est carrément Père Noël, mon petit père. Je n'ai rien contre l'homosexualité pour deux raisons. La première, c'est que vous faites absolument ce que vous voulez avec votre cul. J'en ai très sincèrement rien à carrer. La seconde, c'est que si ça peut vous empêcher de vous reproduire, ça peut pas faire de mal.
Oh, mais sérieusement, monseigneur. Ne me dites pas que vous êtes pour le mariage entre deux personnes du même sexe.
Bah, les homos ont tout autant droit de gâcher leur vie.
Non, mais enfin, le mariage, quand même.
Quoi, le mariage?
Bah, le mariage, je sais pas, moi, le mariage, comment dire. Le mariage, c'est beau, c'est fort, enfin, c'est éternel, quoi.
Oui, surtout le deuxième.
Mais l'amour dans tout ça?
Oh, vous me faites chier avec l'amour. C'est une obsession chez vous. L'amour par-ci, l'amour par-là. L'amour n'existe pas, tiens.
Quoi?
En tout cas, je me rappelle pas l'avoir créé. Ou alors, je t'ai bourré. Quoique, remarque, ça expliquerait bien des choses.
Mais enfin, Dieu est amour!
C'est ça, ouais, mon cul, c'est du poulet.
Voilà, c'est donc mise en scène par la compagnie Not Me Thunder, et c'est donc présenté à la comédie Contrescarpe à 5e arrondissement à Paris. Et donc c'est basé sur la nostalgie de Dieu de Marc Dubuisson, qui continue en plus, hein, il fait des nouveaux billets pour Dieu taper 1. Vous cherchez ça dans Google et vous allez tomber sur son blog où il publie encore de temps à autre des planches et tout ça, c'est assez fun. Et c'est vrai que ça avait été un petit peu la surprise, hein, quand même quand on l'avait lu. C'était pas très engageant et en fait c'est une immense erreur, c'est un grand moment d'humour noir et ça et je pense à ce qu'on a écouté que bon c'est peut-être un petit peu surjoué dans cet extrait mais les autres sont un petit peu plus je vais dire plus en retenue et tout et ça marche très très bien. Si demain vous ne savez pas quoi faire, je rappelle que demain c'est la 20e édition de la fête de la BD à Eos, c'est dans le Gers, avec donc une pléiade de stars de la bande dessinée locale et d'autres qui viennent d'un petit peu plus loin, notamment de Belgique, puisqu'il y aura Joël Azara, Philippe Aymon, Bergès, Frédéric Bézian, Olivier Boiscommun, Brazao, Carin, Chéré, Cécile Chicot, Correa, Jean-Claude Denis, Philippe Druyer, Serge Ernst, Giancarlo, JF, Franck Giroux, Serge Goulesque, Virginie Grenier, Olivier Grandson, Amo, Jean-Ry, Joan Higo, Lepage, Laureline Mathiouzi, Miton, s'il vous plaît, Murzo, Pauvert, Michel Plessis, Ratera, Sternis, mais Béatrice Tillier, Tsutsai, Turc, Venanzi, Roger Widem-Locher, Yann, Zidrou, du moins ça c'est les auteurs que l'on a pour l'instant en confirmé. L'accès est gratuit, l'accès est libre, c'est 10h à 19h, c'est franchement intéressant pour différentes raisons, notamment parce que les auteurs sont extrêmement accessibles. C'est une fête de village, c'est pas prétention d'être un festival ou sinon plus. Il y a des coloristes, il y a des fanzines, il y a des BD à lire. C'est vraiment fait à la bonne franquette. Hein. Par exemple, il y a un fil rouge, on peut gagner des filets garnis, trucs comme ça. Je trouve ça assez fun. Et qui plus est, la région, il y a un GR qui passe du côté des Oz. Il y a... je vais pas refaire la blague. Il y a les domaines et les châteaux à voir dans le coin. Il y a le musée de Condon, pas loin. Ou sinon, si vous êtes motard, vous pouvez peut-être en profiter pour aller au circuit Paul Ricard.
Non, de Nogaro.
De Nogaro. Je fais la blague à chaque fois. Voilà, c'est le running gag. Il fallait automatiquement qu'il y en ait un qui passe. Donc, c'est vraiment le coup, je dirais, d'y aller parce que c'est toujours sympa. C'est Oz dans le Gers, c'est les 20 ans de la fête de la BD. Plus d'informations sur Opal BD ou sinon sur Festival BD et Oz. Vous cherchez et vous allez tomber dessus. Je crois qu'en même temps, dans le même week-end, pas très loin, il y a le festival de jazz
à Marciac, ouais.
À Marciac, qui a lieu avec un programme off qui est intéressant et qui est toujours moins cher d'ailleurs que l'autre grand festival qui a lieu dans la région de jazz et qui lui aussi une programmation qui est plutôt intéressante sans être franchement stupéfiant. Ça vaut vraiment le coup puisqu'il y a des découvertes, trucs comme ça, donc ça c'est toujours bien. Comme d'habitude, de la cendre partout, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien sur la régie. Alors, en ce moment a lieu un match assez intéressant dans les salles obscures américaines. Et la grande surprise, c'est qui en est le vainqueur ? Ah oui, c'est en VO. Les Schtroumpfs,
les Smurfs,
sachant que les Schtroumpfs en fait dans chaque langue ont un nom différent. C'est ça qui est assez rigolo, c'est de voir que malgré tout c'est devenu une grande franchise. Et les Schtroumpfs, on les connaît évidemment en franco-belgique forcément pour la BD publiée dans Spirou et tout, mais aux États-Unis c'est surtout le dessin animé d'Anna Barbera qui a vraiment cartonné là-bas à tel point que ça a été un licensing absolument énorme. Et à tel point que les Schtroumpfs ont influencé la musique et le street art, puisque la danse The Smurf, ça vient justement des Smurfs, parce que tout simplement, les premiers qui dansaient ça, ils avaient en fait plus un bonnet de Rastafari hein, qu'un vrai bonnet phrygien, mais les gosses disaient « Ouais, Smurf, il look like a Smurf », etc. Donc ça leur est resté, ils sont restés en fait
Des Smurfers
plus que des Frisiens, hein. Vraiment. Et bref, ça a eu une immense. C'était un truc qui était archi connu aux États-Unis, un succès à peu près équivalent à ce que l'on a eu en France justement quand le dessin animé est diffusé. Ce qu'on s'attendait absolument pas, c'est que le dessin animé produit par Sony Pictures aux États-Unis qui sortait la même semaine que Cowboy et Envahisseur, où là il y avait gros point de vue business. Les Schtroumpfs ont explosé, Harrison Ford,
Daniel Craig, Olivia Wilde
et John Favreau, hein, quand même. Oui. C'est une baffe monumentale, on ne s'attendait absolument pas à ça. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, au dernier chiffre que l'on a, Sony a produit, c'est un chiffre estimé, hein, 110 millions de dollars, donc le dessin animé des Schtroumpfs qui se passe d'ailleurs à New York, etc. On s'est dit qu'est-ce que c'est que cette horreur et tout. On voit le graphisme, c'est pas hyper engageant pour ceux qui connaissent la bande dessinée.
Ça, c'est sûr.
Texture des peaux, la texture des vêtements, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors que d'un autre côté, Daniel Craig, Harrison Ford, dans Cowboy et Envahisseur, le budget est estimé entre 165 et 200 millions et 200 millions de dollars. On le saura en fait dans la publication des studios des chiffres pour les actionnaires. Et ben on s'est dit, Cowboy versus Envahisseur va faire 40 millions de dollars de chiffre d'affaires la première semaine, puisque aux États-Unis on ne compte pas en nombre d'entrées, on compte en chiffre d'affaires. Et on sera tranquille. Pas du tout, ça a été la cata le premier week-end, puisque ils ont fait 13 millions et les Schtroumpfs ont fait 13 millions 3. Ils sont passés devant. Et au dernier chiffre que l'on a actuellement, et je trouve que tout le monde se dit, ça m'étonnerait qu'ils fassent plus de 30 millions en une semaine, ben ils ont fait 51,1 millions de dollars la première semaine, contre 48 millions 4 pour Cowboy et Envahisseur. Attention, on donne des chiffres en chiffre d'affaires, mais ce sont des chiffres qui viennent donc du Hollywood Reporter, donc ce sont des chiffres en brut, c'est-à-dire que c'est pas ce que reversent les exploitants au studio, qui donc va combler en fait ce qui a été décaissé pour la production du film et pour sa promotion, puisqu'en général c'est la moitié du budget. C'est plutôt le chiffre d'affaires en brut des exploitants. Donc il y a bien évidemment il y a leur marge qui est à prendre en compte, et il y a ce que il y a donc s'ils existent dans les contrats, le contrat des principaux coproducteurs et des principaux acteurs, s'ils ont demandé à signer en fait leur cachet en fonction du chiffre d'affaires du film, ça n'a pas été déduit. Donc on ne sait pas encore exactement s'ils sont soigneusement rentables. On se rassure, normalement l'exploitation à l'étranger, les deux films seront rentables. Là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. C'est juste que Cowboy et Envahisseur, c'est une adaptation d'une bande dessinée qui est pas franchement hyper terrible, hein. Là-dessus, on est d'accord, avec un pitch qui est relativement étrange, mais qui aurait pu marcher, qui en général marche bien, hein, pour ce type, puisqu'on rappelle quand même que Alien et les Aliens s'étaient sortis au cinéma en plein été aux États-Unis, donc ils avaient plutôt bien marché. Je crois même que le deuxième Terminator aussi était sorti en plein été, donc en général c'est le truc.
Non, le deuxième Terminator. Ah, ça dépend.
Aux États-Unis,
aux États-Unis, d'accord. Ceci dit, ils avaient fait.
Non, le deuxième était sorti en France en octobre, mais moi je me souviens, je l'avais vu en Angleterre en juillet, donc je pense qu'il était sorti à ce moment-là.
Moi, je l'avais vu pendant les vacances d'hiver. Mais ceci dit, ils avaient fait avec Outlander avant les cowboys qui rencontrent des aliens, ils avaient fait des Vikings qui rencontrent des aliens. Maintenant, la prochaine fois, ce sera quoi? Des mafieux, mafia versus alien avec Robert De Niro.
Alors, il y a un film qui va arriver où, en fait, sont des jeunes qui sont en voyage d'études, entre guillemets, c'est-à-dire ils vont faire la teuf à Moscou. Et là, des aliens débarquent. Et les premières images que l'on a vues sont plutôt extrêmement impressionnantes. Alors, j'ai pas le nom en tête, et puis c'est mon tort, je l'ai pas noté. On va voir ce que va donner le film, mais bon, voilà, c'est grâce aux effets spéciaux, forcément, on a un rendu qui est super simple, etc. Et ça permet de faire
un rendu super simple à obtenir.
À obtenir, oui. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à des effets qui sont tout à fait réalistes, oui, oui, en post-production et tout, oui, ça. C'est pas ce qui est maintenant notoirement le plus difficile. On attend de voir. En tout cas, Cowboy et Envahisseur et les Schtroumpfs sortent maintenant. On a le même match en Europe en ce moment. Sauf que, petit désavantage pour les deux, il y a Super 8 qui sort en même temps de J.J. Abrams, produit par Spielberg. Donc on va voir un petit peu ce qui va cartonner ou non. Après, je suis allé hier chez un libraire de bande dessinée. Et le libraire en question, il m'a dit, ben tu sais ce qui marche en ce moment auprès des touristes, c'est les figurines en caoutchouc. Chez les Allemands, les Schtroumpfs, c'est clair. Chez les Anglais, Tintin. Alors là aussi, on va voir ce que va donner Tintin, sorti le 20 octobre au cinéma. Est-ce que là aussi, le film est survendu? Ou est-ce que aux États-Unis il va décoller malgré l'absence de notoriété de Tintin, malgré je veux dire les deux producteurs qui sont des monstres hein, du cinéma, il y a pas d'autre chose à dire. On verra ce que ça donne. Aux premières images, il y a des gens qui disent qu'ils ont été franchement agréablement surpris par Tintin. Moi personnellement,
moi oui.
Moi je demande encore à voir.
Ouais, mais bon, ils montrent pas grand chose en même temps. Ils montrent les personnages, comment ça, quel look ils ont en 3D, mais ils montrent rien. Ils montrent juste la fin d'une poursuite en voiture. Ils montrent.
Oui, c'est de l'action qu'on a.
Voilà, une image un peu fantasmagorique de la licorne qui surfe sur des dunes de sable, mais pour l'instant, c'est juste des images un peu évocatrices, mais on voit quasiment rien. Donc, ce sont des personnages qui attendent, qui sont mal éclairés. Bon, voilà, c'est juste pour du teasing pour l'instant. Mais je pense que moi, j'y crois. Moi, je pense que ça va le faire.
Et puisqu'on en est à Lehman Brothers qui baisse la note des États-Unis, toi, t'aurais cru franchement que les Schtroumpfs explosent comme ça enfin, arrivent à égalité?
Moi, je m'en fous, en fait, ouais. Pour les scores. Moi, je sais que Cowboy et Envahisseur, moi, je comptais le voir. Les Schtroumpfs pas du tout, depuis que j'ai vu la première image fixe, je voulais pas le voir.
Paraît qu'Harrison Ford est particulièrement furieux.
Oui, il paraît qu'il demande des Schtroumpfs en direct sur des talk shows américains, mais...
Oui, c'est pas en direct, en général c'est toujours enregistré.
Ah oui, bon, ben...
C'était sur lequel?
Je sais pas, je m'en fous. Les talk shows, je crois que c'est O'Brien, ça?
Conan, je sais pas, apparemment c'était celui de Conan, mais je suis pas sûr. Du sport, lui, il les regarde, mais il est pas abonné à TBS.
Celui qui a les cheveux clairs, le petit jeune, là.
Oh bon, c'est Conan, c'est clair.
Ouais.
Ceci dit, donc c'est il est midi 21. Moi j'attends toujours mon petit cadeau d'Anib.
Ah bon?
Ah bon?
Oui oui.
Ah merde.
J'attends qu'il descende. Est-ce qu'il va arriver avant la fin de l'émission? On verra. Bon, on va entamer les sorties bande dessinée. Avec un truc quand même que c'est vrai, j'ai laissé passer 3 mois avant de le chroniquer. Mais d'un autre côté, c'était peut-être bien aussi de le chroniquer comme ça en plein milieu de l'été, sur un moment latent, parce que c'est peut-être il faut prendre le temps de lire cet album vraiment. Et si vous ne connaissez pas, de lire la série, il s'agit de Seul, le tome 6, donc.
C'est une série d'été, c'est léger, c'est rigolo. Ça, t'as raison. Pour l'été, c'est pas mal.
Moi, je pense que dans une ville désertée, ça vaut le coup d'être lu. Fabien Vellman au scénario et Bruno Gazzotti au dessin. Le 6e tome s'appelle La 4e dimension et demi, et donc est sorti chez Dupuis. Et le 2e cycle commence donc par une incroyable révélation que l'on a eue à la fin du dernier cycle, celle qui expliquerait. Excusez-moi, je dois utiliser le conditionnel en tant que journaliste. Pourquoi les enfants sont donc seuls dans cette ville, dans cette région? Seuls face à des animaux en furie qui ont monté une zone interdite? Seuls face aux monolithes inquiétants au milieu de cette région taboue? Mais surtout seuls face à eux-mêmes? Un groupe que nous suivons depuis le début. Eh ben, c'est Doji, Leila, Yann, Terry, Camille. Il s'est déchiré, il s'est séparé, ils sont revenus. Et tout le reste, ils sont face à l'ancien clan du requin mené par Saul, et on se pose toujours la question, est-ce que la paix va durer, puisque la paix a été officiellement faite entre les deux, et c'est une guerre de position de marquage qui se fait malgré tout. Celui qui pissera contre le plus de murs aura le plus grand territoire, non plus par jeu qui se partage la ville. Évidemment que l'équipe d'en face est largement plus nombreuse, donc il va falloir agir de ruse pour les battre de vitesse, pour gagner au plus vite les positions stratégiques. Mais ce jeu bon enfant ne risque-t-il pas de nouveau de dégénérer? Est-ce que les enfants sauront se montrer sages, eux qui ont dû grandir trop vite? Alors là, d'une manière assez surprenante, les citations abondent. À la fois la scène de combat dans le film Gangs of New York, mais aussi les bouquins survolés lors d'une virée dans une bibliothèque. Tout ça, toute la question est maintenant de savoir pourquoi les animaux montent la garde. Qui peuvent bien être les 15 familles? Et qu'en est-il des enfants qui se sont approchés un peu trop près de la tour noire? Le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à vous pondre un résumé sans spoiler les événements du premier cycle. Car si jamais vous découvrez la série, maintenant, et ben vous m'en voudrez après. Seul le tome 6, toujours par Bruno Gazzotti, qui est quand même le dessinateur de Soda et qui donc arrive à donner par son trait, à son trait, mais je veux dire vraiment un trait rond, un trait
Spirou,
etc. Il arrive à donner des histoires extrêmement noires. Hein. Soda quand même était paraissé dans Spirou. Et Seul aussi paraît dans Spirou, et on se dit, ouais, au scénar, là, ils y vont chaud, hein, et puis Fabien Wellman, là, c'est clair, il s'est lâché, il a dit, un polar fantastique, il est à fond. Là, c'est clair, c'est réussi. Je sais pas quel est votre avis de votre côté, mais,
Moi, j'en ai raté pour les gosses. Enfin, ça dépend qu'à partir de quel âge, mais, ouais, c'est surtout le fait que ce soit des gamins qui soient les héros, mais sinon après au niveau du scénario, ah mince, il faut rien dire.
C'est hardcore hein, quand même, mine de rien, c'est pas évident.
Ouais, là, on sèche là. Il faut juste le lire, vous serez surpris par la couleur des deux, enfin de l'atmosphère des deux premiers tomes, et après tu te dis mais comment, pourquoi. En tout cas, c'est saisissant. Pendant ce temps, Xavier est en train de caler les CD.
On est bien d'accord que de toute façon, c'est un bouquin, on n'est pas déçu. On a vraiment un bouquin d'une excellente qualité, et on est là-dessus, c'était un très bon investissement. Voilà, c'était la sortie BD, et j'en ai marre de jeter mon stylo et de caler mes disques et tout, hein. Quand on fait tout en direct, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, tu peux bailler, mais je crois que tu as le hardbook dont je vais parler à côté de toi. Puisqu'on va parler, pour une fois, d'un hardbook.
Des gros avions.
Ben non, ils sont pas si gros que ça, tu vois, quand tu les regardes. Les éditions Paquet ont une collection de bandes dessinées autour de l'aviation qui s'appelle... rien à voir. Cockpit, dans lequel on a eu une grande surprise puisqu'on avait remis le prix jeune Actua BD à l'un d'entre eux.
Romain oui. Hugo pour.
Ah et bah on sache tous les deux pour une fois, voilà. Et là-dessus, et ben c'est un artbook, mais pas d'un dessinateur de bande dessinée, Lucio Peronito, donc c'est un fanat de l'aviation. De la première moitié du XXe siècle, et ses œuvres paraissent principalement dans, je vous le donne dans le mille, dans une revue qui s'appelle Le Fanat de l'Aviation. Et c'est un illustrateur de presse, mais illustrateur au sens vraiment travail fait pour la quadrille et tout. Il est agréé peintre officiel de l'air et de l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un titre qui est décerné par le ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'on devient peintre officiel, ce qui veut dire que l'on a un grade honorifique de capitaine et qu'il a le droit de prendre en photo les engins sur les bases de l'armée de l'air, c'est-à-dire qu'il a tout à fait le droit d'aller sur pratiquement n'importe quelle base et dire « Bonjour, est-ce que je peux prendre ton Mirage en photo ?» et tout. « Oui, mais alors pas ça, hein, ou si tu illustres, tu le modifies un petit peu. » Après, il n'y a pas de souci. Là où la plupart des journalistes, c'est non. Non, 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 il faut demander une autorisation. Et ça peut prendre du temps, d'ailleurs. Et aussi, agréé peintre officiel de l'air et de l'espace, eh ben, ils l'exposent. Ils ont un salon officiel des peintres au Bourget avec leurs petits camarades, voire ils ont parfois des rétrospectives qui leur sont intégralement consacrées au Bourget. À 60 ans, il a une spontanéité et un désir de recherche, ce qu'il témoigne dans ses notes, des livres, des films d'actualité, des documents glanés sur Internet, ou encore dans les musées, les collections privées. Bon, ça semble bien pratique hein, quand même, le statut de peintre officiel, ce côté-là, encore une fois.
Le titre qu'on cherchait, c'était Le Grand Duc.
Oui, voilà. Il explique la subtilité de l'angle choisi, parfois dans les impératifs d'une publication magazine, avec un temps un petit peu serré et tout ça. Les illustrations qu'il nous présente ne sont pas aussi détaillées que celles de la couverture. D'abord, certains avions avaient une vraie forêt d'antennes et de câbles à l'extérieur. Les illustrations n'ont donc pas forcément une exactitude pointilleuse. Ça, c'est bon à savoir. Certains ont vraiment le jet, une dynamique née du rush de la livraison. Et du coup, ben, on découvre comment, en quelques couches de couleurs, on peut faire vivre un décor qui, justement, ajoute une puissante dynamique au dessin. C'est assez intéressant à voir de ce côté-là. Le texte s'est enrichi des RAW présentés au rédacteur en chef ou d'esquisses d'études à côté. Et là aussi, pour un travail rapidement mené au crayon, quand même, il y a une sacrée maîtrise. on est assez on s'est dit ah ouais quand même là il l'a fait comme ça juste rapido pour présenter, bah ok d'accord, ok, y a boulot. Dans cet artbook sont clairement ces illustrations d'avions de la Seconde Guerre mondiale qui dominent, mais on note aussi quelques prototypes comme le Dornier D0 335 Pfeil, l'improbable coléoptère de la Snecma, le massif SNKAZ SE210 de Grognard et le fin Tupolev 95. Alors comme ça, à la radio, vous comprenez rien, mais quand vous avez les images sous les yeux...
Ouais, il y a du sport qui nous montre des pages.
Là, celui-là, c'est celui des têtes brûlées. Tout de suite, ça vous parle mieux.
Donc voilà.
Ou celui-là qui est utilisé dans tous les films d'aviation.
Oui, parce que c'est là.
Allemande,
c'est parce que c'est ceux dont on a le
BF-109G.
C'est l'un de ceux que l'on avait gardé le plus souvent en état de fonctionner après la guerre, pour des raisons X ou Y.
C'est dommage, on n'a pas nos modèles réduits là pour faire des bastons d'avion.
Et il dit que justement, des fois, il se retrouve à regarder sur les modèles réduits, alors quel est l'angle meilleur et tout,
ça, c'est pas mal,
etc.
Ouais, pour les recherches d'angle, c'est vrai que
c'est extrêmement intéressant de ce côté. Et quand on regarde les dernières pages, on pense immédiatement à Black et Mortimer, mais surtout aux séries des époux Anderson, comme les Thunderbirds, évidemment, qui sont arrivés dans les années 60. Et là-dessus, c'est un beau bouquin pour tous ceux qui s'intéressent aux avions, car l'illustration permet de mettre en scène des plans qui auraient été pratiquement impossibles de réussir en photo. Je sais pas quel est ton avis de ce côté-là.
En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que s'il y a un truc qu'on peut accorder à ce recueil d'illustrations, c'est que les illustrations ne font pas figer. Ce que tu l'avais dit tout à l'heure.
C'est vraiment dynamique, c'est surprenant.
Ouais, l'expressivité, et puis en plus, il met du soin sur l'aspect chrome et l'aspect brillant, mais sans jamais que ce soit au détriment du dynamisme de l'image, où on n'a pas l'impression que c'est l'aérographe, le truc, tu vois, sur les t-shirts noirs, sur les fêtes dans les villes balnéaires, tu sais, avec les loups, avec Johnny Hallyday, avec les avions. C'est pas du tout ce style-là. Et tu le vois aussi sur même les illustrations qui ont l'air un peu plus figées que d'autres. T'as quand même une expressivité derrière. Et tu vois les coups de pinceau sur l'océan que survolent les avions. Et franchement, ouais, c'est vraiment intéressant. T'as des ciels qui sont vraiment magnifiques. Pas juste des avions, t'as aussi les décors qui sont intéressants.
Et les notes de production, on se rend compte que finalement, c'est pas toujours la même manière et tout. Il dit, là, je voulais profiter que l'avion soit relativement petit et étroit pour mettre en valeur le pilote, etc.
Le Tupolev, c'est dur de le dessiner celui-là parce que c'est tout longiligne.
C'est impressionnant.
Qui te nique toute ta mise en page. Alors si tu le mets un peu plus en profondeur, tu vois pas l'avion. Enfin,
le kiloptère, tu te dis, mais c'est issu des Thunderbirds, quoi, parce que c'est une espèce de réacteur sur lequel dessus on a fait une cabine de pilotage et qui décolle verticalement. Donc ouais. C'est un VTOL, ce qu'on appelle un vertical take-off. Et c'est vraiment beau de ce côté-là. Moi, je pense que c'est un bon bouquin. Pas forcément pour... c'est un très bel objet. Pas forcément... pour les monomaniaques du genre, mais il faut avouer quand même que Lucio Perinotto, il est loin de manier ses plumes comme des manches, et que ça plaira aussi peut-être justement aux illustrateurs ou ceux qui font la 3D et tout,
puis y a même
ça intéressera.
Il y a des excellents travaux, là, JB il est en train de...
il y a mon cadeau.
Ah, JB. Il y a un excellent travail sur les traînées d'avions les batteries d'avion pour les parades, par exemple, les traînées dans les nuages qui sont vraiment là. T'as des affrontements aussi avec des feux, des armes dans le ciel. C'est vraiment. Et comment il coûte cet artbook? Parce que pour un artbook, il faut savoir qu'ils sont quand même assez chers généralement.
Alors, j'ai pas relevé le prix, mais je pense pas qu'il soit relativement cher.
Attention, on va ouvrir le micro de JB. Bonjour JB.
Oui, sauf que. Bonjour.
Il est à 19 euros.
Eh ben pour un artbook, c'est vraiment donné.
C'est vraiment donné.
Non, mais il est pas excessif. En plus, justement, paquet quand même. Ils ont une qualité de reproduction qui est impeccable. Sur les bouquins, il y a des fois, il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui sont un petit peu moins. Ça, on en a parlé. Qui plus est, puisque on parlait de cockpit, je tiens à signaler que ces calandres, tout le plan, toutes les sorties que l'on a eues, j'ai oublié de le signaler, mais en fait il y a une offre promotionnelle dessus en BD librairie si vous les achetez, donc ça peut être intéressant justement si vous offrez un cadeau à votre papa ou à votre tonton, ou à votre grand-père. C'est vraiment de ce côté-là.
Si vous connaissez les fans d'avions, c'est le moment.
C'est vraiment d'une bonne qualité. JB, Merci, en plus t'as mis ton petit nœud de cadeau de, sur la tête. C'est vrai que ça fait hyper longtemps que t'es pas revenu.
Oui, bonjour.
Bonjour, tu vas bien? Mets un casque s'il te plaît.
Oui.
Amenez-lui un casque s'il
Attends,
vous plaît.
Il y a tous les casques qui sont à l'opposé, tiens.
parce que ça fait super longtemps. Laisse-moi deviner, tu es arrivé avec un...
Je sais pas lequel c'est.
Attends. Attends,
comme d'habitude, c'est le
bon.
C'est celui-là. Et j'entends que d'une oreille, mais ça ira très bien.
Bon, ça ira très bien. Laisse-moi deviner. T'as pas prévu chronique?
Non, évidemment.
Évidemment. Sinon, ça aurait été trop ça. Heureusement, il est là pour faire un bon public de télévision. Je sais que tu peux le faire.
Cap dans tes mains, c'est pas difficile. Cap dans tes mains, ça fait du bien. Cap dans tes mains, c'est un peu débile. Tu peux taper dans tes mains.
Ah oui, vas-y.
Tu peux taper dans tes mains.
Tu sais taper dans tes mains, moi.
Onk, onk.
Ta main droite, droite, et ta main gauche, droite. Quand elles sont face à face, tu les jettes l'une contre l'autre. Il faut pas se tromper, mais c'est pas bien compliqué. Si elles sont bien en place, y a pas grand risque que tu te votes.
Voilà. Désolé, c'était au bonheur des dames, hein. Voilà, pour les documents.
Je trouve que la programmation musicale de cette émission devient frôle les abysses.
Oui. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Hein.
Et encore. Je suis à peu près sûr qu'après vous allez me faire une sale blague. Du sport. Je crois que d'ailleurs. Justement. Excusez-moi. Ça m'apprendra. Je passe des conneries. Et en fait, JB, on a oublié de te dire, mais tu arrives super à la bourre.
Oui.
Bah,
il fallait bien.
Non, j'ai oublié de te dire parce qu'en fait, c'est la fin de l'émission. C'était le supplément week-end numéro D'accord. 285 sur Radio FMR. J'espère que tout le monde va bien et on est désolé parce que en fait, voilà, il y a beaucoup de sport cette semaine et on avait dit qu'on ne déborderait pas à 12h30. Donc voilà. Excusez-moi, donc on arrive sur la fin. Donc vous écoutez FMR 189.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ce sera dans 3 semaines. Et puis voilà, dans l'immédiat, c'est du sport qui prend la suite.
Au programme de cette émission, la course automobile avec la Piston Cup qui vient de se terminer. C'est Flash McQueen qui vient de la gagner pour la 4e année consécutive. On en est à l'intersaison avec ce soir la 2e course de la série du Grand Prix sponsorisé par Miles Axelrod et sa fameuse huile naturelle à Nathanol. Pour l'instant, après un seul Grand Prix, celui du Japon, c'est Francesco Bernoulli qui est en tête devant McQueen, mais gare à Raoul Sarroul, qui roule ce soir devant son public à Paris au japonais Sho Todoroki également et à l'allemand Max Schnell. Alors on parle de cette course aussi parce que de nombreux incidents ont émaillé la compétition et notamment des explosions de moteurs, ce qui remet en cause la fiabilité de l'athanol. Mais il se dit que dans les milieux autorisés, il pourrait s'agir de sabotage.
Et oui, donc on parle de Cars 2. Alors, film d'animation des studios Pixar, réalisé par John Lasseter. Alors, tenez-vous bien.
Qu'est-ce que vous me foutez, les gars, là?
Alors, tenez-vous bien.
Moi, j'étais parti.
On va continuer sur le, avec ce fond sonore sur le casting qui est les poids lourds.
de chez Poids Lourd. Alors on a les voix, alors je vous dis les voix en VO, hein, parce que bon, voix en VO, Owen Wilson dans le rôle de Flash McQueen,
ouais.
Finn McMissile, Michael Caine.
Ouais.
Ouais.
Ah ouais. En, alors en VF c'est pas mal aussi, c'est Lambert Wilson.
Bon, ouais. Ouais, ouais.
Bon choix. Eddie Izzard, Jason Isaacs, c'est ouais. Le père de Drago Malfoy qui fait une voiture aussi. Joe Mantegna qui fait un espion tout rouillé, un homme de main du méchant, accompagné de Peter Jacobson, donc c'est Tob, l'assistant de House, qui fait aussi l'autre homme de main. Thomas Kretschmann, l'infâme professeur Z, c'est le méchant, le scientifique qui torture des voitures. Michael Keaton, toujours, qui refait une apparition en Chick X, l'ancien rival de Flash. John Turturro qui fait Francesco Bernoulli. Alors ouais. C'est un clone de son Jesus dans The Big Lebowski. Là, ouais. Cette fois-ci, il fait une Formule 1 qui est chez lui à Monza. Ensuite, on a Vanessa Redgrave qui joue la reine d'Angleterre. Bon, c'est toujours des bagnoles. Alors, essayez d'imaginer la voiture reine d'Angleterre. On a Bruce Campbell aussi qui fait un espion, confrère de McMissile. On a Chish Marin, le Mexicain adepte du tuning qui était ouais. Déjà dans le 1. Lewis Hamilton, Sébastien Vettel, Jacques Villeneuve qui font des apparitions. Et ils ont même poussé le bouchon jusqu'à rendre hommage à Paul Newman, puisque Doc Hudson, c'est lui qui faisait la voix du poux dans le premier. Et donc là, ils ont dit que Doc Hudson était mort. Et sa maison à Radiator Spring est transformée en musée Doc Hudson. Et la Piston Cup est rebaptisée la Hudson Cup. Voilà.
Oui, non, parce que là, ça me convient pas du tout. Donc on va passer quand même le générique cinéma. Hein.
Allez.
En accéléré, hein, parce que après tout, on est sur. On a déjà commencé, donc il n'y a aucune raison qu'on le passe en entier. Et puis voilà, zou. Ah là, tu te fous de ma gueule!
Ouais, c'est. Alors, c'est vrai que pour ceux qui débarquent, ces fonds sonores, c'est n'importe quoi. Mais non! Parce qu'on est.
On met un radio FMR, un coup ça marche pas. Allons-y, Charlie Basset.
Goldfinger!
Je vois pas le rapport, sérieusement.
He's the man with the Midas touch.
Bah c'est un homme, c'est pas une voiture.
Ben oui, sauf que cette fois-ci, il s'agit plus du tout de course, puisque Flash McQueen est juste relégué au rang dans le décor. Puisque le vrai héros de ce deuxième épisode, c'est Martin, c'est le tracteur avec les dents de devant. Ouais, ouais, tu dis ah ouais, mais essaie de t'imaginer. Pour donner une idée de rendu, imagine Star Wars du point de vue de Jar Jar Binks. Ah merde, ils l'ont fait.
Oh merde.
Oui, oui.
Voilà, ben c'est ça. C'est-à-dire que tu as du Martin tout le temps, avec ses gaffes, sans parler à la mitraillette. Donc évidemment, imagine un film dont le héros c'est l'âne de Shrek. Donc de la blague partout.
Ou Fabrice Luchini.
Ou ouais.
Ou
oui.
Fabrice Luchini.
C'est pareil, voilà. Voilà, et plein de quiproquos. Et Martin qui est propulsé sur le devant de la scène parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.
Oh, moi j'aime bien ça.
Ouais, ouais. Mais vas-y, va voir le long métrage en cinéma avec Martin pendant une heure et demie. Vas-y, tu me raconteras. Moi je.
Dis le mec qui ne loupe aucune diffusion des Charlots sur n'importe quelle chaîne.
Non, juste les Charlots. Les Charlots.
En Espagne.
Ouais, c'est pour les Jeux Olympiques là. Les fous du stade, voilà. Okay. Bon, moi franchement j'ai eu du mal, c'est super bavard. À un moment donné, il y a des gamins dans la salle, ils commençaient à tourner de l'œil un peu. Et non, franchement c'est super bavard. Et l'autre truc, c'est que franchement c'est un clin d'œil géant au James Bond. Tu as l'intro explosive, tu as bon, c'est Goldfinger à fond puisque le professeur Z, c'est une voiture avec un monocle qui a un fort accent allemand. Alors c'est Gerhard,
c'est Blofeld.
Mais non, Blofeld. C'est Goldfinger, c'est qui dit non, monsieur Bond, j'attends juste que vous mouriez. Ils ont même poussé le vice jusqu'à reprendre la scène du laser rouge qui menace d'atomiser donc le héros.
Donc Martin.
Donc
en pièces détachées.
Ouais, mais c'est pas Martin, mais tu verras.
D'accord.
Et donc, alors évidemment, l'autre héros, c'est Finn McMissile, qui est une Aston Martin, bien
ouais.
Sûr. Voilà, qui est bourré de gadgets. Alors oui, les gamins qui vont vouloir avoir l'Aston Martin avec tous les gadgets à acheter en plus,
cool.
Qui est d'ailleurs secondé par. Alors je vais retrouver le nom. C'est Holly Shiftwell. Qui est donc la Miss Monet Penny du film, bien sûr.
Oh.
Oui, oui. Mais bon, sauf que Monet Penny, elle reste dans son bureau, mais là, elle va sur terrain avec McMissile.
Et la petite Porsche, elle revient.
Oui, on la voit aussi. Bah, c'est ouais. l'amoureuse de McQueen, donc de McQueen, Sally, ouais. Doublée donc par Cécile de France en français. Non, elle revient. Elle revient. On a toutes les voitures de Radiator Spring qui reviennent aussi. Ça reste du Cars, même si c'est un deuxième épisode. Mais par contre, c'est vraiment très orienté clin d'œil géant à James Bond. Et c'est vrai que les courses, si vous aviez aimé le réalisme des... Enfin, réalisme... Non, on va pas dire ça. C'est le dynamisme des courses du 1 avec le contre-braquage, les ovales et tout. C'est vrai que là, on s'y perd un peu parce que c'est vraiment le film d'aventure par excellence.
Poursuite plus que...
Ouais aussi, et puis t'as surtout, c'est sur tout le circuit du monde. Donc t'as du circuit sur asphalte, tu as du circuit de Formule 1. Et puis ils vont à Tokyo, ils vont à Paris, ils vont à Londres, ils vont en Italie. C'est l'occasion aussi d'avoir des paysages splendides en 3D, mais l'Italie, mais c'est trop bluffant. T'as les couchers de soleil, mais en plus quand ils sont à Paris ou Londres, ben c'est Londres, c'est Paris. Donc tu vois, l'Arc de Triomphe, t'as les rues pavées, t'as les trottoirs, t'as les voitures qui sont dans l'assistance, tu as Big Ben. Et quand c'est voilà, quand ils modélisent, c'est pas voilà, c'est pas du carton
enfin,
derrière.
C'est Pixar
hein.
quoi.
Voilà. Bon, ils ont, je pense, recyclé pas mal de trucs qu'ils avaient fait pour Ratatouille pour Paris. Parce qu'on voit la Tour Eiffel derrière. T'as même une insigne de Gusto à un moment donné, qui est le clin d'œil à Ratatouille.
De toute façon, ils ont toujours fait dans un film souvent référence à un autre film,
oui, voire au film suivant,
oui, oui.
au projet ouais. en cours.
Alors, ce qu'il y a de rigolo aussi pour les japonophiles d'ici, alors évidemment, quand ils vont au Japon, ils prennent l'avion et dans l'avion, ils regardent le Takeshi Castle, mais version voiture. Voilà. T'as les toilettes japonaises aussi. Donc t'as Martin qui expérimente les toilettes japonaises avec tout ce que ça engendre de surprise et de oh mais qu'est-ce que c'est que ça. Mais c'est que si j'appuie sur ce bouton ça donne quoi. Voilà. Voilà. C'est très rigolo. Big Ben, t'as tout le service secret avec les gardes royaux en voiture. Donc ça c'est très rigolo aussi. Bon voilà, vous fendez la poire, ça reste du Pixar, ça reste du film d'animation 3D pour les enfants. Mais voilà, c'est un film qui sait pas trop où se situer puisque t'as à la fois c'est entre deux, c'est l'aventure pour les gamins, donc t'as plus trop le second degré avec la morale où les allusions sont très très lourdes à James Bond. Donc si tu es pas connaisseur de James Bond, les gamins ils vont rien pomper. Mais bon, ça reste quand même plaisant. Ça, j'ai l'impression que, enfin, peut-être qu'on a été trop exigeant avec Pixar, mais j'ai l'impression que la qualité va décrescendo en fait au niveau des.
Bah déjà qu'il y a une suite, voilà quoi. Depuis que. Même, à part Toy Story, de toute façon, on était habitués à ce qu'ils ne tombent pas dans la facilité de la suite. Oui. Parce qu'ils prennent vraiment leur couille à deux mains à chaque fois de nous raconter une nouvelle histoire. Il y avait un KSCD qui est un blogueur BD sur le net qui dessine à chaque fois des bonhommes juste en bâton. Il avait dit... résumer un Pixar et à chaque fois il dit voilà c'est pour chaque film à chaque fois tu as une bulle de 8 lignes minimum et il dit alors résumer après un DreamWorks ouais. Bah, c'est très simple, il y a des héros qui pètent, ils ont tous cette gueule comme ça
comme de requin, ça.
Voilà, voilà, ils ont tous exactement la même gueule.
Je trouve qu'avec Cars 2 ils sont en voie de DreamWorksisation, je trouve un peu
Pixar. Tu penses qu'ils sont sur la voie de garage peut-être
Pas mal, mais je pense que là ils commencent à réfléchir en termes de produits dérivés, en termes de voitures à acheter, en termes de rendre sympathique. Parce que, les Monstres et Compagnie, ils ont des têtes de nounours, mais ils ont quand même l'ambivalence aussi. Donc, c'est vrai que, quelque part, tu regrettes un petit peu le côté fourmillement d'idées qu'il y avait dans les premiers Pixar, que tu ne trouves plus ici, ou alors il y a des idées quelque part, mais elles sont très très minces.
Moi, je vais quand même leur donner leur chance. J'ai pas vu le Cars 2. J'ai entendu dire qu'il était pas si bon que ça, certes, ok. Mais ils ont déjà prévu depuis quelques années de faire le Cars 2. Mmh. Le Monstres et Compagnie 2 est prévu pour l'année prochaine. Bizarre. Ça a déjà été déclaré l'année dernière.
Alors on a déjà les premières images et une idée du scénar.
Voilà, ok. Il est peut-être pas si bon que ça, mais dans la majorité, c'est très correct. Et peut-être que le prochain sera meilleur. Mmh. Et il te dira, quand même pour un 2, comme on a eu un Toy Story 2, comme on a eu un Toy Story 3 qui était vraiment bon, ils savent quand même relever le défi. Quand il fallait. Bon, ils sont peut-être plantés sur le 2, c'est pas grave.
Il y a quand même une espèce d'énorme. L'énorme consensus qu'il y avait dans les premiers Pixar où tout le monde disait c'est génial, il faut que ça soit connu et tout. Mm-hmm. Et là, il commence à y avoir des grincements. Quand il y a eu Ratatouille, tout le monde a dit ah, ils sont en phase de Disneyisation parce que c'est des rats, c'est des petits animaux. Avec là-haut, c'était un peu plus bas du front, mais c'était quand même poétique, mais c'était bas du front. Et à chaque fois, il y a toujours la remarque. Pour du Pixar, c'est décevant, mais ça reste quand même du très bon.
Ah bah, ils ont mis la barre tellement haut, c'est comme les Miyazaki finalement. Et là, il y a le deuxième film là du fils Miyazaki qui va sortir et qui se fait déjà commencer à se faire bien flinguer.
Oui, sauf que là, tu parles des Ghibli et pas des Miyazaki.
Mais voilà, c'est encore une fois.
Aussi, mais là, cet air, il est en pleine possession de ses moyens. C'est pas.
Enfin, j'estime. Enfin, pour moi, ça me semble un petit peu évident qu'ils sont arrivés au sommet parce que eux, ils développaient le code. Donc, il y avait vraiment la capacité technique était monstrueuse, justement, pour tous les spécialistes. Et en même temps, ils allaient encore au-delà puisqu'ils écrivaient une histoire extraordinaire à chaque fois. Ouais. Et c'est peut-être ce que l'on oublie, c'est qu'ils sont très, 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 très haut niveau. Ils peuvent baisser, mais ils sont largement au-dessus,
ils sont
encore des autres.
Au-dessus. Ouais. Quand tu sais, quand t'as un Pixar qui sort, toi-même, tu le sais, il t'intéresse, tu vas voir un petit peu le pitch, voir ce que ça peut donner. Quand t'as un DreamWorks qui sort, moi, perso, je m'en fous, mais royalement. Quand c'est un Kung Fu Panda sort, excusez-moi, mais j'ai pas eu doigt coché sur le premier. Les autres DreamWorks, en général, les gangs de requins ou autres, je trouve ça plat, je trouve ça ennuyeux. Alors que quand je vois un Pixar... Ça me moustille quand même.
Et surtout que voilà, maintenant ils utilisent Renderman, qui est le soft qui est continuellement mis à jour par Pixar. Donc théoriquement, ils pourraient arriver au même niveau. Et ben non, ils y arrivent pas.
Sauf que moi, les Pixar avant, j'avais pas besoin de voir le pitch, j'y allais. Et là, je commence à regarder les pitchs. Et Kung Fu Panda, j'avais adoré le 1. Et la seule raison pour laquelle je suis pas allé voir le 2, c'était que c'était uniquement en 3D. Et moi, je trouve que DreamWorks commence à se hisser un petit peu au-dessus de. Ben là, ils ont passé leur phase de Shrek, donc ils vont commencer à devoir à se bouger le fion pour essayer de se renouveler un peu. Et Pixar, je trouve qu'il surfe un petit peu sur une vague qui est très très haute, la plus haute du monde, mais qui commence à s'écrouler un petit peu. Donc il va falloir franchement qu'ils nous trouvent avec Monstres et Compagnie 2, qui vont vraiment, qui ont la capacité de se renouveler.
Même, je crois sincèrement qu'un Monstres et Compagnie 2 ou un. En Cars 2, même si, enfin, si Cars 2 n'est pas bon, enfin, pas très bon, et peut-être que ça sera un viandard, le Monster Company 2, mais je pense que ces deux films seront quand même toujours plus intéressants que ce que j'ai vu de DreamWorks.
Je pense qu'on en est encore à ce niveau-là, oui. Ils seront toujours plus intéressants, mais la frontière, ça me nuise, je trouve. Voilà, bon, c'est pour pédaler.
En même temps, c'est de la concurrence, c'est de bons jeux. DreamWorks essaye de se hisser. Et surtout, Pixar essaye de rester à la flot, et c'est pas si facile que ça.
Du sport, bon. À son avis aussi, puisqu'il a 3 furies à aller amener au cinéma, voilà, ouais, et il voit régulièrement des films d'animation.
Ouais, ouais, mais je fais pas la différence là comme ça, quoi. Disons, bon. Donc pour l'instant, bof.
Par exemple, toi, tu nous as dit avoir beaucoup aimé Rango. De quel studio c'était.
Voilà, je sais même pas de quel studio c'est. Quoi.
Ouais, je crois pas que ce soit de Pixar.
C'est la Fox.
C'est Pixar. C'est
Fox,
ouais.
Ouais. C'est Fox. Le studio qui a fait L'Âge de Glace, donc. Mm.
Voilà. Enfin bon, bref.
Bon, on était bon.
Statler et World of du balcon. Pas en avis uniforme. Tu vois pas qui c'est. C'est vieux du Muppet Show.
Ah oui, non, mais je regarde pas moi. Mais en tout cas, oui, voilà.
Attends, c'est une excellente série, elle va faire beaucoup de succès dans l'avenir.
Donc, Cars 2, toujours, en tant que Pixar au cinéma, toujours accompagné de son petit court-métrage au début. Ça reprend les personnages de Toy Story 3. Voilà, le premier court-métrage.
Donc, redonner
juste avant,
le.
Juste avant, en parlant de court-métrage, il y a eu la semaine où le Cars 2 est sorti, M6 avait proposé. Le Cars 1 à 20h30 un jeudi soir, et à 17h il y avait ce qu'on appelait les Cars Toon, petit jeu de mots, où ça dure 2-3 minutes, il y en a 7, et c'est Martin se la raconte, version Martin se prend pour un toréador, franchement c'est horripilant, ça vaut vraiment le coup.
Ça figure sur les bonus du,
c'est horripilant
du DVD.
Ah, ça vaut
et
vraiment
c'est,
bon.
C'est en 3D?
Non, pas du tout.
Eh bien imagine ça en 1h30, avec la 3D. Voilà.
Pourquoi pas.
C'est résumé. Enfin, donc.
Mais Cars 2, voilà, on rappelle la référence. Donc, évidemment, c'est Pixar. Évidemment, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, si vous l'avez loupé, ne vous inquiétez pas. Il est là pour tout l'été encore.
Oh oui.
Et même plus après. Donc, Cars 2, donc, réalisé par John Lasseter. Des studios Pixar. Et voilà, et si vous aimez les films d'animation, si vous avez de la marmaille à aller amener au cinéma, c'est bavard, mais ça passe. To one dream appears.
Allez, on la regrette déjà, mais elle est déjà copiée. The Butt Shaker, Sad Issues and Heart Issues. Butt Shaker, Sedacious and Heart Issues, et vous l'avez pu l'écouter pendant 3 mois sur la radio puisque c'était en partenariat avec la Ferra Rock. Mais de suite, une breaking news.
And now, the news.
Le point vocabulaire vous est présenté par Thomas Berthelon sur Radio FMR à midi et 57 minutes. Thomas, bonjour.
Bonjour. Alors voilà, voilà, on fait une rectification parce que JB s'excuse, il a voulu dire horripilant, mais comme il découvre un peu le langage radio, horripilant, il voulait dire que c'était super bien en fait.
Merci.
Je ne ferai pas de commentaire.
Et de suite, nous passons à bonne nuit les petits.
Et nous avons Nounours dans les studios.
Il est horripilant tout plein.
Bon enfant. Moi je vois qu'on fait une spéciale pour du sport là. Non non, c'est pour honorer la mémoire de Claude Laidu qui est mort en début de semaine. Claude Laidu qui était quand même un des créateurs et le producteur de l'émission Bonne nuit les petits, qui dans sa version originale et bien, a été diffusée par la première chaîne et en noir et blanc. Et il y a une deuxième production qui a été faite à partir de 76 en couleur mais qui s'appelait Nounours, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que normalement, les personnages principaux, quand même, dans la.
C'est, ils avaient même retenté à la fin des années 90, je crois, de lancer ça.
En 3D. Mais enfin bon, c'était je parle des deux premières versions. La première version, c'était plutôt centré, en fait, sur les. C'était deux personnages, Nicolas et Pimprenelle, hein, le fait qu'ils aillent au lit, qu'ils puissent se coucher sans dormir. Alors que sur le deuxième, c'était plus centré sur Nounours et puis les histoires avec le marchand de sable, bien entendu. Voilà, c'est la seule différence. Donc, décès de Claude Laïdus, c'est juste pour le signaler. Alors, on va changer radicalement de thème.
Attends, avec... j'ai pas eu le temps de changer de disque.
Ah, bah alors, vas-y.
Parce que je pensais que t'allais pas, peut-être qu'il avait une autre carrière et tout, mais non, même pas. Bon, ok. Je te signale que je mets ça.
Eh ben vas-y.
Donc voilà, donc c'est dire si on va radicalement changer d'ambiance. Hein.
Ah bah à l'aise. Mais tu aurais dû préparer ton truc à l'avance aussi.
Non mais il y a que deux lecteurs et j'ai que quatre mains, ça va.
Il préparé les trucs à quoi
bah, vas-y quoi, vas-y quoi. Oh, comment tu m'en cherches.
Escúcheme atentamente y olvídese de todo lo demás.
Imagine le monde. Alors, on va parler d'un bouquin de Don Winslow, c'est le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Savages, paru aux éditions du Masque. Alors, Don Winslow, ben, on le connaît depuis 1991, la date à laquelle il a publié son premier bouquin qui s'appelle Circa Piccadilly dans sa version française A Cool Breeze on the Underground, la version originale sortie en série noire donc à l'époque en 91, numéro 2368. Puis il est resté chez pratiquement jusqu'au début des années 2000, en fait, où il a sorti, bon normal an, un bouquin par an. Il a également sorti son deuxième bouquin en 96, donc là, 5 ans entre les deux premiers. Également sorti dans la série noire, The Trail of the Buddha's Mirror, toujours avec le même détective, hein, d'ailleurs, qu'on découvre, dont on apprend à faire connaissance dans le premier. Il fait toute une thématique sur ce héros, Earl Carney, pendant les 5 premiers bouquins, puis après, ben, il publie. Il écrit des one-shots et c'est à cette occasion-là, d'ailleurs, pratiquement en même temps qu'il décide de changer de maison d'édition pratiquement à chaque coup, et du moins pour les éditions françaises. En 2000, Noyant dans le désert. En 2002, du feu sous la cendre chez Bellefond. Ensuite, il passe chez Fayard, hein, pour 2007, La griffe du chien, qui est un petit peu le même genre d'histoire que celle-là parce que c'est sous fond de trafic de drogue. Également 2009, dans la collection du Masque, donc la même collection que Savages, L'hiver de Frankie Machine, déjà un des bouquins qui devait être adapté au cinéma par un certain Robert De Niro, en plus, s'il vous plaît, mais bon, ben, on attend toujours que ça sorte. Le bouquin Savages, donc, qui vient de sortir, eh bien, déjà, ça interpelle parce que ce n'est pas de l'écriture de la mise en page traditionnelle de longs chapitres, des chapitres moyens, mais une écriture relativement dense. Là, bon, ben, c'est très aéré. Ça fait pratiquement haïku à certains moments. Alors des chapitres, j'ai pas compté comme il y en a, mais il y en a presque 300 sur un bouquin. Oula. Qui fait 325 pages.
Ah oui, quand même.
Tu te dis bon bah d'accord, il y a un truc, il y a un problème et tout, c'est tout à fait normal.
C'est en alexandrin ou
non pas du tout. C'est tout à fait normal parce que déjà t'as le premier chapitre, il y a deux mots.
D'accord.
Fuck you. Donc ça commence bon. Déjà bien.
Hey, j'ai lu un chapitre aujourd'hui.
Ouais, c'est cool. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire que t'as des chapitres plus ou moins longs qui résument un petit peu l'action ou qui décrivent l'action, et d'autres qui sont des chapitres très très courts qui résument la pensée ou peut-être un dialogue très court entre deux personnages. Bref, c'est un bouquin multiple de la manière dans sa construction parce que on peut se mettre à la place de n'importe quel personnage qui intervient dans le bouquin, qu'il soit actif ou passif. Bien évidemment, empathiquement parlant, on va être du côté des, entre guillemets, bons. C'est-à-dire ce petit groupe de deux jeunes. Le premier est docteur en botanique, expert en marketing. Le deuxième a fait les Navy Seals, est fou d'armes à feu et a également un petit peu zoné avec les Navy Seals du côté de l'Afghanistan et de l'Irak. Donc, il est un petit peu, on va dire, c'est le costaud de la bande. Et la troisième, c'est O, prénommée comme ça parce que c'est le diminutif de Ophélia, qui est d'ailleurs la petite copine de l'un comme de l'autre. Hein. Bon, bah ok, je vous raconte pas tout ce qui va se développer dans le bouquin. C'est quand même, il y a des scènes qui sont assez explicites à ce niveau-là. Hein. Il y a pas de problème, c'est assez sensuel. Et ce petit groupe de deux personnages, eh bien, fabrique un volume plus ou moins industriel.
de l'excellente ganja, la meilleure ganja de toute la Californie du Sud, l'hydro. L'hydro, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une variété de ganja qui poussait hors sol, c'est-à-dire sans matière organique. C'est le principe de l'hydroponie. Et donc ça a fourni une ganja super forte et tout, qui est très appréciée. Ils ont leur petit marché, leur petit cheptel de cultivateurs qui font ça dans leur garage ou un petit peu n'importe où. Et bon, dans la bon, ben ça leur permet de vivre relativement bien. Le problème, c'est que de l'autre côté, on est en Californie du Sud, et juste de l'autre côté de la frontière, quand vous êtes passé par Tijuana, eh bien, il y a les cartels de la drogue mexicains.
Et ça rigole vraiment
assez
bien.
Ça rigole vraiment pas. Alors, Don Winslow décrit la situation qui est assez actuelle concernant les différents cartels qui existent au Mexique, les grosses mafias. Bon, pour l'instant, il y en a que trois. Mais bon, qui se tire la bourre comme c'est pas permis.
Ouais, et puis il y a une poussée des clans nicaraguains et tout ça qui commence à prendre de plus en plus hein, sur la région du Sud.
Voilà, et donc eh bien, un des cartels mexicains décide de mettre main basse sur la production d'herbes, c'est-à-dire de s'approprier plus ou moins la ganja et de la distribuer eux-mêmes. Alors qu'eux, avant, ils faisaient tout, quoi, c'est-à-dire de la production à la consommation pratiquement. Bon, ils consomment également, c'est normal, hein, pour goûter le produit. Mais le cartel leur met le contrat sur la table, on achète tout au prix de gros et puis c'est bon, vous démerdez, vous faites que produire, c'est tout quoi, le reste on s'en occupe. Et donc il y a quand même un petit manque à gagner et donc ils décident tout simplement de dire on les emmerde, qu'ils aillent se faire foutre. C'est ce qu'il fallait pas faire face à un cartel.
D'où le premier chapitre.
Non pas forcément, pas du tout, ça a rien à voir le premier chapitre. Et tout pourrait se passer dans le meilleur des mondes, chacun retournant à ses moutons. Parce que on dit jamais non au cartel. Et là, ça va quand même commencer à devenir hyper méchant, hyper trash, parce que bien sûr, un des personnages va se faire enlever. Il va y avoir d'autres tentatives d'enlèvement, du nettoyage par le vide, bien sûr, parce que les techniques d'intimidation entre guillemets sont relativement efficaces. Il y a pas de problème. Ça donne un bouquin qui est très rythmé, très très engageant et qui se lit pratiquement d'une traite. Hein. Tellement l'histoire en elle-même et dans le temps et dans la continuité est relativement simple. Hein. C'est pas une intrigue à tiroir, des trucs dont il faut te rappeler à la page 300 parce que tu l'as lu à la page 40, mais t'en as plus aucune indication entre. Bon, c'est pas mal, ça se lit assez vite et tout. Don Winslow, je l'étais resté sur un a priori. Non pas défavorable, mais enfin bon, pas extraordinaire, mais c'est vrai que il y a quand même pratiquement 20 ans qui sont passés entre le premier bouquin Piccadilly et ce Savages, donc son écriture a quand même vachement évolué. C'est déstructuré des fois un petit peu à la manière de James Ellroy dans sa dernière période, donc c'est une technique de lecture un petit peu spéciale qu'il faut avoir, il faut bien accrocher les trucs et tout, mais sinon ça se lit vraiment parfaitement. En plus, c'est le bouquin qui est en train de faire. Le bouquin est sorti l'an dernier aux États-Unis, il sort cette année donc chez nous. L'an dernier, il y a eu déjà un super buzz aux États-Unis concernant le bouquin et concernant le fait qu'un certain Oliver Stone, qui est un pote d'ailleurs de Don Winslow, qui a quand même une carrière un petit peu spéciale, on va dire, parce que bon, il est né à New York en 53, ensuite il s'est baladé un petit peu dans Nebraska, il a fait un petit peu l'Afrique, et il a exercé les métiers divers comme détective privé, guide pour safari, acteur, metteur en scène, enseignant, journaliste, directeur de théâtre, chercheur, agent de sécurité. Bref, le mec, il a brassé un petit peu large, on va dire, et ça lui permet certainement à avoir pas mal d'entre gens par rapport à pas mal de gens. Et donc Oliver Stone lui a acheté les droits de ce bouquin qu'il est en train de monter d'ailleurs, avec une affiche qui tue de la mort, Uma Thurman, John Travolta, Amy Lerch, disons du lourd, du costaud, du tatoué, ça y a pas de problème et tout, avec même Blake Lively donc dans le rôle de la jeune Ophélia. Ce qui est pas mal, et quand tu commences à connaître le personnage d'Ophélia, tu te dis si Blake Lively arrive à jouer correctement ce personnage, c'est qu'elle sait vraiment très bien jouer, ce dont on ne doute pas d'ailleurs un seul instant. Donc Don Winslow, Savages, c'est très très un très très bon polar, hein, vraiment excellent. Et Don Winslow avait déjà commis un autre bouquin qui concerne donc le trafic de drogue et tout ça. Ce bouquin s'appelle donc La griffe du chien, qui était sorti en 2007 chez Fayard. Voilà, à vous procurer absolument, ou alors attendez l'an prochain, puis ça passera en poche, donc ça sera vachement moins cher.
On attendait la conclusion avec le poche.
Algunas veces esta vida la sentimos como una gran pregunta, muchas veces sin respuesta. Estoy de acuerdo que la calle ha sido mi mejor escuela, que el hip hop ha invadido todo mi cuerpo como la viruela, que la vida es dolorosa como un dolor de muela, que a lo largo del camino he probado el sabor de la suela. Estoy de acuerdo que he pasado más tiempo dentro que afuera, aquel que viaje en nuestra contra muera, porque a veces pienso que la vida es un gran obstáculo, pero me preparo de antemano como un oráculo, sobreviviendo en México, Distrito Federal, hago un cálculo, aquí tienes que hacer frío. Estoy de acuerdo que el destino solamente es mío, solamente a mí me pertenece, de mí depende, acaso surde, acaso crece, aunque a veces pienso que he nacido en un mar de estrés. Si todos quieren paz, ¿por qué no existe? Si todos quieren lo mejor, ¿por qué la vida es triste? Si todos quieren ser felices, ¿por qué lloraste y no reíste? Palabra caridad, pero sí entendí en mil maneras de maldad, en el reino de la envidia y la impunidad, en el infierno, en mi ciudad he desarrollado.
Voilà, le fond sonore c'était Contrafuro, extrait de leur album Segunda Fase. Je sais qu'il est sorti depuis un bail chez EMI Mérique. Bah, de suite, on continue dans les DVD.
Try to remember when life was so tender and happy. FMR 89.1 MHz.
Et hop, comme ça, j'ai mis l'identifiant de la radio. Super. Oh mon dieu.
Non, nous ne sommes pas sponsorisés par le Vatican. C'est la musique de Avalon par Kenji Kawai. Alors aujourd'hui, on parle du nouveau film de Mamoru Oshii, Asso Girls, qui est avec c'est un film live avec Rinko Kikuchi, Inako Saeki et Meisa Kuroki, disponible en DVD chez M6 Vidéo, et c'est tout frais, ça vient de sortir en DVD en juillet là. Donc le monde est au bord de l'implosion, les sociétés et les systèmes économiques piétinent et peinent à évoluer, les conflits d'un genre nouveau éclatent aux quatre coins de la planète, bah c'est aujourd'hui quoi. Mais le salut peut provenir du virtuel, territoire où les connaissances sont mises en commun, où les individualités se fondent pour mieux se défouler dans un univers belliqueux calqué sur le réel. Ce jeu à grande échelle s'appelle Avalon. Alors, je vois JB circonspect, Avalon s'est sorti il y a des années. Mais dans son extension Avalon F, 4 super joueurs, Grey, Lucifer, le colonel et Jagger, errent dans un désert sans fin à la chasse au ver géant des sables. Oh, Frank Herbert, où es-tu? Voilà, donc c'est... Voilà, donc c'est, il s'agit du nouveau film donc live de Mamoru Oshii, et ce film a une histoire derrière lui, puisque Oshii avait réalisé un court-métrage qui s'appelait Asso Girl au singulier pour les chaînes KFC. Oui, oui. Ensuite,
C'est diffusé où?
Ça, je n'ai pas cette information. KFC, c'est le resto, c'est la chaîne de resto. Okay. Et d'ailleurs, on voyait une statue du colonel Sanders dans le court-métrage, mais ça, je l'ai vu sur le net, j'ai pas vérifié. Hein. Ensuite, il a fait un deuxième court-métrage, il s'appelait Asso Girl 2. Et ensuite, il a eu l'idée de compiler tout ça pour le gonfler en long-métrage, donc il fait 70 minutes, et ça s'appelle Asso Girls. Alors le film... Voilà, le film s'ouvre sur une voix off présentant la situation géopolitique. Alors, au passage, il est vraiment passionnant, on se croirait chez Chris Marker, ça peut durer... approximativement un peu moins de 10 minutes, et ça te plante le décor, c'est-à-dire ça t'explique situation géopolitique. Alors on connaît Mamoru Oshii et son goût pour ces descriptions-là, sur cet aspect. Il essaie toujours de relier même ses fictions virtuelles à un univers assez cohérent qui fait appel à notre univers contemporain. Et ça se défile au visuel des photos. Sont des photos, des images vidéo d'archives d'avions, de porte-avions, d'images de guerre. Et ce sont des images qui sont quasiment pas travaillées, ce sont des images noires et blancs, parfois très granuleuses. Et donc ce passage-là, moi, franchement, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, Oshii fait du Chris Marker, voilà. Ensuite, on passe à une imagerie informatique, donc des écrans et indicateurs lumineux, des cibles mouvantes, des radars, donc ça... On se croirait vraiment dans Ghost in the Shell 2 Innocence. Bon, on se dit, bon, Oshii a l'habitude de s'auto-citer. Hein, donc, bon, c'est une répétition qu'on a l'habitude de voir dans, dans sa filmographie.
Et, on n'a pas parlé de flemme.
Non, ouais. Et donc, cette imagerie informatique donc, prend le relais de cette succession d'images d'archives. Et bon, c'est vrai qu'il a quand même un certain talent pour susciter... C'est-à-dire pour raconter des histoires avec des imageries, voilà, des écrans d'ordinateur, en très gros plan. Donc on a aussi les stries de l'écran, etc. Ensuite, on a une exposition sur les personnages. On se croirait vraiment dans les combats de Besson, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en lambeau avec un vêtement ample et face au désert. Et le mec, alors une imagerie qui est désaturée, pas naturaliste, mais pas trop travaillée non plus. Donc tu te dis... Tiens, Oshii qui fait une image pas trop travaillée, c'est nouveau. Et donc c'est sans parole. Au début, tu dis, bon, ouais, dernier combat, quoi. Bon, il y a une voix off qui est omniprésente. Ensuite, ça passe à du sans parole. Et en fait, on s'aperçoit que le mec, il guette une apparition d'un ver géant des sables. Tout ça pour se faire bouffer en deux secondes. Tiens, bon, c'est curieux. Bon, il y a un petit second degré derrière. Tu passes 5 minutes avec le mec, finalement, pour qu'il soit dégommé en 2 secondes. Et après, ça se blesse. Mais avant, tu te dis, j'avais vu pas mal d'échos négatifs sur le net, je me suis dit, tiens, les gens qui ont parlé sur le film sont des gens qui aiment pas trop le contemplatif, qui aiment pas trop du post-apo où il se passe rien. Moi je suis emballé. Moi franchement, je suis intéressé. Je me dis, j'avais trouvé Tachigichi Retsuden, c'était un exercice de style sur la restauration rapide, j'en avais parlé sur cette antenne, à base d'images de silhouettes 2D avec des effets, donc il se faisait plaisir, mais c'était imbitable. Et après, t'avais Skycrawlers, qui était un dessin animé tout à fait potable, mais très en deçà de ce qu'il faisait sur Ghost in the Shell. Et là, je me dis, bon, il se renouvelle. Et là, tu as une espèce de tunnel pendant une heure où tu fais connaissance avec les quatre personnages, et les quatre personnages ne parlent jamais entre eux, ils se font tous dégommer par les vers des sables, et il y a une voix off qui leur dit... qu'il dit à l'une d'entre elles, tu sais, tu arriveras à rien toute seule, il faut que tu rejoignes un parti. Et c'est une voix en anglais et qui est assénée, voilà, au moins 15 fois. Bon, j'exagère, 10 fois, voilà, et la nana, elle se remémore dans la tête, ouais, elle y réfléchit et tout. Ensuite, t'as un plan sur un escargot de 3 minutes. Et après, t'as la même
ça
nana.
Ça change d'ébassé.
Voilà, exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. Oh putain, il a changé d'animal, c'est trop cool. Il se renouvelle, le mec. Et après, t'as les quatre personnages. Tu vois, elles ont chacune leur spécialité. Il y en a une qui se transforme en oiseau, l'autre qui fait appel à des engins motorisés, une autre qui est plus sexy que les autres. Alors, tu vois toujours que Oshii, il fantasme toujours sur des nanas sanglées de un peu de cuir et avec des grosses armes et tout. Tu vois, le mec, l'otaku de base, tu vois. Bon. Et là, ça dure une heure, c'est-à-dire qu'elles ne se parlent pas entre elles. Il y en a une qui laisse un escargot, l'autre qui met son chapeau par-dessus. C'est là, on voit le quota un peu comique, un peu planant du film. Et une autre qui voit le mec, il avale l'escargot, et il laisse la coquille, et l'autre, elle écrase la coquille. Message, attention, on fait savoir aux autres qu'on est passé, donc on met une petite trace sur l'escargot. Je dis, oh là, bon, c'est pas, on va voir après. Puis après, je ne parle pas du climax, mais je me dis tout ça pour ça. Voilà. Les effets sont hideux. Les effets spéciaux, vraiment, sont merdiques. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que les Japonais, je ne sais pas s'ils maîtrisent bien la typo occidentale, mais il faut vraiment qu'ils prennent des cours de typo, parce que c'est pas possible. Les effets, on se croirait dans un mauvais Mortal Kombat, mais un vieux, hein. C'est un truc...
Ils sont horripilants.
Tout à fait. Mais tout plein. Et alors, t'as un peu
je
de comique.
Pas rajouter une couche.
T'as un peu de comique.
Moi, je peux me le permettre.
T'as des rappels à Avalon. À un moment donné, tu te dis non, ça s'appelle Avalon F, enfin Avalon 2, pour surfer sur le. Pour dire attention, Avalon 2, achetez. Enfin, non, c'est vraiment des références à Avalon. Tu te dis, mais comment un mec qui a pu faire Avalon, qui est quand même un sommet dans l'imbrication virtuelle réalité, est capable de.
Dans les mises en scène, dans les effets et tout ça.
Oui, voilà. Et comment ce mec-là est capable de nous sortir ce Asso Girl? Vous avez vu, Asso Girl, ça rime avec arnaque. C'est sa première lettre qu'il a même. Hein. Moi, franchement, j'ai l'impression de m'être fait entuber à la fin. Tu te dis, ah, t'as le générique qui passe. Et. Ah, putain, ouais, non, mais il y a des trucs après le générique. Mais non, ça se finit comme ça. Et j'ai vraiment perdu 70 minutes de ma vie hier soir. Je suis dingue de Oshii. Parce que, bon, je suis content de l'avoir vu, parce qu'au moins je me dis, bon, j'ai vu quasiment tous ses films, à part les premiers courts-métrages qui sont assez difficilement trouvables, qu'il avait fait avant. Mais là, voilà, So Girls, je l'ai vu. Bon, donc c'est, je suis cool, là, c'est bon, je peux en parler alors que je l'ai vu, mais voilà. Le seul avantage, il saute au site, il y a plein d'éthiques visuelles de tous ses précédents films, donc ça, franchement, ça commence à être lourd. Mais il n'y a pas de bassé cette fois-ci. Ouais, c'est incroyable. Dans un film d'Oshii, il n'y a pas de bassé. Le son bassé, il revient pas. Bon, il a l'escargot à la place. Mais il y a un chien, mais c'est pas un bassé. Je me dis, mais il a fumé ce type, c'est pas possible. Bon, voilà. Asso Girls.
Peut-être que le chien est mort hein, depuis quelques années. Et il est obligé de changer de mascotte hein, aussi. Hein.
Ouais, mais je pense pas qu'il utilise son vrai chien à l'écran.
Ouais. Ouais.
Bon, voilà. Si, si, dans le film, c'était son vrai chien.
Pour moi, ça a toujours été son vrai chien.
Ça a toujours été son vrai chien, et c'est vrai qu'il était paru dans l'OST, dans l'OAV, pardon, pas de Gundam, c'est l'autre.
Pat Labor,
ouais. Donc ça fait depuis 89. Donc.
Oui, qui apparaît en animation, en image réelle, etc. Oui.
Tu me trouves des chiens qui ont vécu 20 ans comme ça ?
C'est
pas
vrai.
Tant que ça, hein.
Bon, Oshii est devenu l'ombre de lui-même. C'est
voilà. Un hommage à son chien.
C'est ça. Donc, c'est un film qui entre dans la catégorie de ma programmation des Asiates de l'été du supplément week-end. Donc voilà, vous voyez, je chronique du live, du japonais, du coréen, c'est cool, hein, du vampire. Voilà, donc Asso Girls, disponible en DVD depuis pas longtemps chez M6 Vidéo. Si vous êtes fanatique absolu de Oshii et que vous voulez tout vous taper, ça peut être intéressant. Pour le reste, si vous êtes déjà hermétique à ce qu'il a fait avant, c'est même pas la peine. Donc, film réalisé par Mamoru Oshii avec Rinko Kikuchi, Nako Asaeki et Meisa Kuroki, disponible en DVD, et puis ça vaut risque et péril.
Radio FMR, c'est le supplément week-end, 13h21. Ça laisse un petit peu de temps pour dire... bon, voyons, qu'est-ce qui a picoré entre les rediffs et les histoires de Domenech, soit sur la chaîne Info, soit sur France 3 en fin de nuit, et même après ça, c'est terminé.
Ah bah en fin de nuit ce soir, on reste japonais.
Ah, sur Paris Première.
Avec sur Arte à minuit 50 avec un polar de la bonne époque, un polar japonais de Shunya Ito de 1973.
Oh,
ah
oui.
La tanière de la bête avec Meiko Kaji, c'est la nana qui faisait les femmes scorpions, la trilogie ou la tétralogie des femmes scorpions.
Elle fait pas un titre sur les BO de Kill Bill aussi elle.
Bah si, on l'a passé la semaine dernière.
Non, mais elle est hyper connue hein, c'était vraiment et puis bon à l'époque elle était assez appétissante aussi quoi. Il y a également Mikio Narita et Raisen Lee donc dans cette tanière de la bête, c'est diffusé ce soir enfin au début de la nuit hein, 0h50 sur Arte. Ah, il me le fait à la Skyrock ou je sais pas quoi. Là.
Non, Skyrock ils savent pas.
Ah bon, ok. 13ème rue vous propose ce soir une enquête des inspecteurs associés d'Alziez et Spasco. Donc, rencontre avec la mort. Mais là, bien, Warren Clark et Colin Buchanan, ils ont affaire à un certain David Saul.
Ah oui,
Hutch. Ce téléfilm est donc réalisé par Patrick Lowe. Il est sorti. En 2004, c'est ce soir sur 13ème Roue 2, donc un bon. Ils sont tous bons de toute façon, hein. C'est une bonne série anglaise, Inspecteur Associé, d'Alziez et Spasco, deux vieux qui sont revenus tout, enfin bon, c'est sympa. Et les deux acteurs, de toute façon, bon, bah, il n'y a pas de problème, hein, c'est des acteurs confirmés. Demain soir, sur France 3, bien sûr, c'est le commissaire Montalbano avec encore un inédit qui date de cette année, 2011, La Danse de la Mouette. On suit les aventures donc de ce commissaire Montalbano, interprété par Luca Zingaretti. Et sur TF6, ça vient vous en redemander, et il y en a encore. Et là, ben, on a décidé de faire un petit peu dans, pas le classique, mais celui qui surfait sur la vague. Hein. De toute façon, enfin, tout le monde a surfé sur cette vague. À cette époque-là, c'est le Peplum sur TF6, demain soir à 20h40. tout d'abord l'enlèvement des Sabines de Richard Potier avec Roger Moore, Georgia Moll, Mylène de Mongeau et Jean Marais. Rendez-vous compte, deux pour le prix d'un, carrément. Ouais.
Tous ces messieurs avec les bijoux à l'air sous leur petite robe.
Aïe. Alors Richard Potier,
il est tout rouge,
il est tout rouge. Il est français.
Regarde,
et lol.
On peut recalibrer les caméras. Continue.
Allez, alors Richard Potier donc est français, mais
je
par
me rappelle
contre,
pourquoi je venais plus.
Il est né à Budapest et sous un autre nom qui s'appelle Ernest Deutsch, mais bon, il a fui assez vite Budapest et puis donc il est français. Il fait son premier film quand même en 1934. Il fait deux ou trois films par an tranquille et c'est quand même lui qui a réalisé en 1956 Le Chanteur de Mexico. Et oui, avec Luis Mariano. Et il le reprend d'ailleurs deux ans plus tard, en 1958, pour Serena de Texas, toujours avec Luis Mariano. Il a fait également dans le genre péplum, alors là c'est déjà la fin de sa carrière, hein, au Père Potier. En 59, il a fait David et Goliath, il a fait son dernier film en 64, et ça s'appelle Le Dernier Tiercé. Rien à voir avec le péplum. Donc c'est le
c'est pas son dada.
Demain soir, donc l'enlèvement des Sabines à 20h40, suivi à 22h15 de Carthage en flammes avec Pierre Brasseur, Daniel Gélin, José Juarez et Maria Occhione. C'est un film de Carmine Gallone qui lui est un grand classique du cinéma italien parce que bon, il a commencé sa carrière par le muet en 1913 quand même, hein, le monsieur, avec Le Baiser de Cyrano, puis l'année suivante il faisait La Femme Nue, et en 1915 un film que James Cameron lui a piqué après, Avatar, en 1915. Rendez-vous compte. C'est lui également qu'on connaît un petit peu mieux. Alors, il a fait un film qui a servi de propagande d'ailleurs en 1937. Il s'appelle Scipion l'Africain, qui est un film en costume avec des éléphants, enfin bon, des figurants à la tonne, enfin bon, genre un petit peu Cécile B. DeMille, mais à l'italienne. Et c'est l'histoire vraie donc de Scipion l'Africain, qui est un héros et qui a servi de propagande à Mussolini pour ses conquêtes coloniales, la Tunisie, la Libye et l'Éthiopie. Donc c'est un film qui a un petit peu été détourné, mais Carmine Gallone, on le connaît surtout parce que en 1955, il nous fait La Grande Bagarre de Don Camillo. Et en 61 également, Don Camillo Monseigneur. Il a également fait pas mal dans l'opéra filmé où il a fait Rigoletto, La Traviata, Le Carmen, Faust. Il a filmé les vies de Puccini, de Verdi. Bref, c'est un grand metteur en scène quand même italien qui nous fait donc ce Carthage en flammes demain soir sur TF6 à partir de 22h15 avec Pierre Brasseur, le papa. Hein,
Et puis, de toute façon, comme disait le grand Catan, d'Elena Cartago.
Ouais. D'Elena Cartago Est.
Ouais.
Tout à fait.
C'est d'Astérix. Donc,
Carthage est vaincu. Hein,
voilà.
En VO.
Voilà.
En VF.
Lundi, le retour. Vous aviez aimé Death Wish 1 plus Death Wish 2. Eh bien, le Death Wish 3 est à l'affiche lundi sur RTL9. Mais après, un film qui est même plus dans la lignée de Death Wish tellement il est mauvais, c'est Le Justicier, l'ultime combat d'Arthur Goldstein avec toujours Charles Bronson, bien sûr. Et Leslie Undone, monsieur, celui-là, bon, on peut s'en passer. Par contre, celui qui suit juste après ce ultime combat à 22h30 lundi prochain sur RTL9, c'est Le Justicier de Minuit, donc le 3. Hein, alors là, c'est plus Michael Winner qui le fait, c'est Jack Lee Thompson, donc pas mal, bon faiseur et tout, avec Charles Bronson, Andrew Stevens et Geoffrey Lewis. Donc
Lewis en méchant.
Ça date donc de 82. Sinon sur la chaîne Polar, également un excellent polar d'Anthony Mann en 48, Marché de Brut, Road Deal dans le titre original avec Denis O'Keefe, Claire Trevor, Marsha Hunt et John Ireland. Vraiment un très 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 bon polar de cette époque-là. Mardi sur NRJ 12. Mardi c'est du UV Ball à fond les manettes.
Oh non.
Tout d'abord à 20h35, King Rising. Avec Jason Statham, Lily Sobieski, Jonathan Rhys-Davies, Ron Perlman, Christina Loken. Tout ça pour ça. Super, c'est super. Il est excellent ce film. Tu peux le voir et le revoir, t'as toujours le même bonheur. Ou alors, si vous préférez, Blood Rain du même UV Ball, c'est sur la chaîne Action mardi prochain à 20h40.
Réalisateur horripilant.
Mais qui aime bien Kristanna Loken puisqu'elle est également dans Blood Rain aux côtés de Michael Madsen. Donc voilà.
Le mec aime les castings.
Il a les castings, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Mercredi sur Sci-Fi, vous avez aimé des serpents dans l'avion, vous allez aimer des serpents à bord de Fren Hollenray. Alors imaginez des scientifiques dans un sous-marin avec des serpents OGM. Des serpents à bord avec
pourquoi vous avez Luc pris le sous-marin Perry, bah, la ligne était moins chère.
Avec Luc Perry, Dylan, avec Krista Allen, avec Tom Béranger, ouais, Louis Mandylor, le petit frère de Costas. Tout ça dans les serpents à bord. C'est sur Sci-Fi mercredi prochain à 20h45. Ou alors un bon film quand même mercredi prochain. Tu as programmé ici d'ailleurs à 20h40 de Chaser de Na Hong Jin. Ah, oui. Voilà, ça c'est sur Ciné Frisson mercredi prochain à 20h40. Jeudi, on a j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière, bon parce que j'avais pas je me suis dit bon, je vais peut-être faire l'impasse et tout. Je suis tombé dessus et puis ça m'a scotché quand même, c'est cette nouvelle série du Botswana qui est diffusée tous les jeudis sur Arte, qui s'appelle L'agence numéro 1 des dames détectives, avec Jill Scott dans le rôle titre.
Non, non, elle est produite en Angleterre et elle a été diffusée sur une chaîne anglaise, il me semble.
Oui, mais ça se passe au Botswana.
Au Botswana, on est
voilà,
bien d'accord.
Voilà, voilà. Non, non, parce que Jill Scott, je la connais justement, quoi. Je me suis dit, putain, non.
Faudrait que tu
ça m'étonne qu'elle soit, qu'elle soit vraiment du. Enfin, elle doit être originelle, enfin, plutôt. Tellement elle joue bien, quoi. Et il y a Idris Elba aussi, quoi. Donc, c'est pareil, quoi. Et là, le jeudi dernier, avant-hier, c'était le téléfilm, on va dire, le pilote, d'accord. Et là, maintenant, on va passer, à partir de jeudi prochain, un format plus court avec des épisodes de 50 minutes. Donc, les deux premiers épisodes de la série. Le bon filon, c'est le numéro 1, et Poison, le numéro 2. C'est pas mal. C'est vraiment l'ambiance. Bon, on est au Botswana, et puis bon, c'est Nala qui ouvre une agence de détectives, comme ça, quoi. Et bon, il y a un petit.
Elle est revenue au pays, elle a décidé de se lancer là-dedans.
Ouais, il y a un petit faux rythme et tout, très africain, très bon, c'est tranquille. Ça fait plaisir, ça change, ça.
C'est d'été.
Ça dépayse complètement. Par contre, il y a quand même des enquêtes et des histoires qui sont pas franchement ragoûtantes, on va dire. Alors, ça oscille entre vraiment la comédie pure et des moments où bon bah il faut résoudre une enquête, on fait des recherches, mais on tombe sur des trucs qui sont pas forcément très ragoûtants. Bref, la vraie vie. Alors, c'est assez marrant de voir comment ces trucs se catapultent. Enfin bon, c'est bien aidé par les personnages qui justement impriment bien ce rythme quoi à ce genre d'exercice. C'est très bien réussi, donc c'est sur Arte jeudi prochain, l'agence numéro 1 des dames détectives. Sinon sur TF6, il y a encore du Carmi des Galones avec Michel Strogoff. Alors celui-là est excellent, excellent carrément. Il l'a fait en 56 avec Kurt Jurgens dans le rôle titre, Geneviève Page, Jean Paredes, Gérard Burr, bref, ça c'est vraiment un très très bon, hein, Michel Strogoff. Quoi. Sur TCM, jeudi prochain également à 20h40, un Oscar du meilleur scénario. Grand Hôtel de Edmund Goulding en 1932 avec Greta Garbo, John Crawford, John Barrymore, Wallace Beery, mon gars. Hein, tout ça, tu vois, c'est dans Grand Hôtel. C'est un magnifique film qui est diffusé donc sur TCM jeudi prochain à 20h40. On termine par pratiquement tout et n'importe quoi. Vendredi, ouais. Six filles à 20h45. Les frontières du passé, une histoire qui te rappelle tout à fait... Life on Mars, tu vois, un détective qui s'évanouit, qui se trouve plongé 20 ans en arrière. Alors, oui. C'est filmé par Jorge Papavalsiliou, le mec qui nous avait fait les gladiateurs, quand même. Un excellent péplum moderne, bien musclé, bien tatoué, avec, avec des bons Autrichiens bien de chez nous. Non, ça va, ils sont faisant de cacahuètes. Non, mais sans vanne, en plus, c'était un bon film. Là, il nous fait donc Les Frontières du Passé avec Stéphane Luca, Petra Kleinert et Mina Tarder. C'est sur Sci-Fi vendredi prochain à 20h45. Ou sinon, il y a quand même encore un petit peplum. Ah ouais. Sur FX vendredi prochain à 21h. Hercule contre les mercenaires. Ou alors complètement improbable. Hercule, au début, il est enchaîné, il est traité comme un esclave. Alors c'est complètement improbable vu oui. La mythologie. Mais ça fait rien, ça marche quand même. Hein, c'est de Umberto Lenzi en 62 avec. Richard Harrison, si, c'est lui, et Marie-Lou Tolou et Lydia Alfonsi, donc pour ce Hercule contre les mercenaires, programmé sur FX vendredi prochain à 21h.
Ah, ma foi, le soleil est revenu.
Mais oui,
il est fait beau, il fait chaud. Eh oui, quand il est là, le soleil est là. Non, j'espère que tu le reverras pas d'être passé quand.
Oui.
Ah oui, à ce point. Oula. Oula. Bon. Thomas, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent sur la FM ou en stream ou même qui écoutent le podcast en diagonale. Et ma foi, je crois qu'ils auront loupé plein de choses dans cette émission.
Oui, aujourd'hui on avait une piqûre de rappel pour Eos, du Smurf, des gamins qui s'entretuent, des gros navions, l'actualité sportive en direct des circuits, un breaking news horripilante tout plein, l'instant nounours par du sport, des haïkus, du post-apo tristouné, des bijoux à l'air, un gibetto rouge, un mec qui a des castings, des serpents sans l'avion et de l'Autrichien bien de chez nous musclé et tatoué.
Nom d'une bielle, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, voire carrément. Allez-y, posez des questions, posez tout plein. C'est bientôt la 300e, bientôt les 30 ans de la radio. Peut-être qu'on va répondre à vos questions en direct.
Oh, ou peut-être que vous... rien n'est plus sûr.
Ou peut-être que on vous fera venir pour le coup. Qui sait. Pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site web de l'émission suppléments-weekend.fr, suppléments-weekend.fr, avec les liens vers nos réseaux sociaux. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Boost, leur FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Le prochain épisode aura lieu dans, oula, 2-3 semaines. Le temps de refaire le studio et tout. Nous, on va du coup faire la grasse matinée chez nous. Parce que, qu'est-ce que vous croyez, hein? On se lève à 7h du matin pour faire les émissions. Et après coup, c'est pas tout simple. En attendant, ciao, bye bye. Rendez-vous, à bientôt, même heure, même fréquence. Et de suite, le vrai, ça c'est du sport.